jusqu'à une bonne partie de la nuit avant que vous retrouviez l'info dès 5h30 demain matin sur Europe 1. N'oubliez pas qu'ici on vous aime et c'est là bien le principal. Bonne nuit, salut.
Merci beaucoup Olivier, rentrez bien, je vous embrasse. Une heure, bonne nuit à l'écoute d'Europe 1. C'est l'heure du récit de Christophe Ondelatte et aujourd'hui une affaire criminelle qui se déroule dans la Marne. L'enquête sur le meurtre de Laurence Dromard, une enquête qui va se tourner vers le mari et sa maîtresse. Un grand classique. Mais c'est une histoire intéressante jusqu'au bout parce qu'au procès, tout va se jouer sur l'intime conviction des jurés. Et l'occasion de rappeler qu'à la cour d'assises, il n'y a pas besoin de preuves. Conférer l'article 153 du Code de procédure pénale. Bienvenue dans Ondelatte raconte.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute en juillet 2010 à Saint-Martin-d'Ablois, dans la Marne. Le 15 juillet, à 22h11, les pompiers reçoivent un appel paniqué. Sapeur-pompier, j'écoute.
Allô ? Je suis Sylvain Dromard, à Saint-Martin-d'Ablois. Venez vite, j'ai trouvé ma femme dans l'entrée chez moi. On lui a fracassé le crâne.
Elle respire ?
Je sais pas, je crois que oui.
Les pompiers arrivent, la scène est terrible. Le mari tient sa femme dans les bras et il y a du sang partout dans la pièce. Un carnage, une grande flaque sur le sol, des éclaboussures sur les murs, sur les meubles. Et la tête de Laurence Romard, elle s'appelle Laurence, explosée, fracassée. Les pompiers se lancent alors dans un massage cardiaque et là, miracle, son cœur repart. Ils la stabilisent, ils la mettent dans une ambulance. Mais malheureusement, Laurence Dromard meurt sur la route de l'hôpital. Quand les gendarmes arrivent, ils trouvent le mari, Sylvain, qui est artisan menuisier et qui a découvert le corps en rentrant du boulot, effondré.
T'es marié depuis 19 ans. Il va falloir que je dise ça à nos deux filles. Leur maman est morte.
Elles ont quel âge, vos filles ?
Chloé a 14 ans. Et Clarisse a 18.
Vous avez une idée de qui a pu faire ça ?
Je pense que c'est un cambriolage. Regardez. Ils ont tout retourné. Regardez, tout est par terre.
Et c'est vrai, des armoires entières ont été vidées. Tous les dossiers de l'entreprise de Sylvain, qui est artisan menuisier, sont éparpillés sur le sol. La maison a été retournée. Est-ce qu'ils vous ont volé quelque chose ? Vous avez remarqué qu'il manque quelque chose ?
Oui. J'avais mis du liquide caché dans une cassette vidéo, dans une enveloppe. L'argent a disparu. C'était pour payer nos vacances. On devait partir demain.
Et c'est tout ?
Non, j'ai vu aussi qu'il manque ses bijoux.
Dès le lendemain matin, la terrible nouvelle fait le tour de Saint-Martin-d'Ablois. 1500 habitants, c'est tout petit. Et tout le monde connaissait Laurence. Elle a un salon de coiffure, Laurence Coiffure, juste à côté de chez elle. Cambriolage qui a mal tourné, c'est possible. Même s'il n'est pas courant que des cambrioleurs surpris fracassent la tête de celle qui vient de les prendre en flagrant délit. Ou alors elle les connaissait et elle les aurait dénoncés. Ils n'ont pas eu le choix. À part ça, ces cambrioleurs sont très imprudents parce que c'est une impasse. La maison des Dromard est au fond d'une impasse. Une longue impasse bordée de maisons de chaque côté. Les voisins les ont peut-être vus arriver. Bonjour monsieur. Gendarmerie. Vous venez pour Laurence ? Oui. Vous avez vu quelque chose ? Vu quelqu'un entrer chez les Dromard ?
Ah non. Non, j'ai rien vu. Je suis désolé.
Personne n'a rien vu. Personne. Les gendarmes fouillent toute la maison et ils trouvent des bijoux qui pourtant étaient en évidence et qui n'ont pas été volés. Et puis une enveloppe avec du liquide, 500 euros. Et à partir de là, une idée commence à leur trotter dans la tête. Et si ça n'était pas un cambriolage qui tourne mal ? Parce que tout de même, ils ont les premiers retours du légiste. On s'est acharné sur cette femme. Elle a reçu au moins 10 coups violents sur la tête. 10. D'après les projections de sang, les premiers donnés debout et ensuite au sol. Bam, 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 bam. C'est beaucoup, 10 coups. Vous voyez un cambrioleur surpris en plein travail qui balance 10 coups violents comme ça à une femme qui ne connaît pas? Non, ça ressemble à un meurtre déguisé en cambriolage. Évidemment, à qui pensent les gendarmes? Vous y pensez aussi, j'en suis sûr. Le mari. Le mari éploré qui suggère que c'est un cambriolage. Les voisins disent qu'ils l'ont vu arriver chez lui à 21h50. Ça colle avec son propre témoignage. Ok. Alors pourquoi n'appelle-t-il les pompiers qu'à 22h11? Que fait-il dans les 21 minutes qui séparent la découverte de sa femme en sang du moment où il appelle le 18? D'autant que Laurence, à ce moment-là, est entre la vie et la mort. Il y a urgence. Puisque dans les minutes qui suivent leur arrivée, les pompiers, par un massage cardiaque, parviennent à relancer son cœur. Il n'y a pas que ça qui laisse penser que peut-être Sylvain Dromard n'est pas blanc-blanc dans cette affaire. Le jour des obsèques de sa femme, Laurence. Après, il y a toujours un petit pot. Il y a des brioches, il y a du café, il y a des jus de fruits, ça se fait. Eh bien lui, oh, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a réclamé du champagne. C'est fou, hein? Du champagne le jour de l'enterrement de sa femme, comme si il y avait quelque chose à fêter. Oh ben maintenant, le voilà avec sa poule. Eh oui, ça c'est l'autre révélation de ce début d'enquête. Sylvain Dromard a une maîtresse, et d'après ce que disent les gens, la pauvre Laurence avait les cornes depuis le premier jour de son mariage. Sylvain l'a toujours trompée. Oh ben depuis 3 ans. Disons qu'il avait une régulière. Une attitrée, quoi. Muriel, qu'elle s'appelle. Muriel Bonin, secrétaire dans une boîte de matériaux de construction dont Sylvain Dromard est client. Mais attention, hein, n'imaginez pas une maîtresse qu'il va voir en cachette en racontant des bobards à sa femme. Depuis qu'il la connaît, Sylvain a quitté 2 fois le domicile conjugal pour aller vivre avec elle. Et puis il est revenu, pour les filles, pour leurs filles. Ça nous fait un mobile? Non. Il a une maîtresse, il n'arrive pas à quitter sa femme. Il la tue. Un mois après la mort de Laurence, Sylvain Dromard est donc convoqué par les gendarmes à la section de recherche de Reims. Et là, il y a 2 techniques. Soit ils lui font croire que c'est un interrogatoire de routine, et il voit venir. Soit ils lui disent d'entrer les choses. On vous soupçonne. Il y a ça et ça dans vos déclarations qui ne collent pas. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi vous attendez 20 minutes pour appeler les pompiers. Les gendarmes choisissent cette dernière approche. Ils posent leurs doutes sur la table. D'entrée ! En se disant c'est un amateur, ça va le déstabiliser. Eh bien, pas du tout.
J'aurais jamais tué Laurence. Enfin, c'est la mère de mes filles. Vous vous rendez compte? Ça ne peut pas être moi.
Vous avez une deuxième vie, monsieur Dromard. Avec madame Muriel Bonin.
Laurence le savait. Elle acceptait. Je lui ai dit avant même qu'on se marie que j'étais volage. C'était comme ça, elle me pardonnait.
Vous nous dites tout allait bien avec ma femme?
Oui. On avait plein de projets ensemble. Déjà, on devait partir en vacances, le lendemain de sa mort, en camping-car avec nos filles. Et puis, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a acheté des appartements ensemble pour notre retraite.
Montant de votre investissement?
450 000 euros. 450 000. Et puis, on était sur le point d'acheter une voiture neuve aussi.
Et là, les gendarmes lui demandent de s'expliquer sur ce laps de temps de 20 minutes entre son arrivée chez lui et le moment où il appelle les pompiers.
Oh ben ça, c'est pas compliqué. J'ai tenté de la sauver, enfin, je lui fais un massage cardiaque, et puis du bouche à bouche. Et puis ensuite, j'ai voulu appeler, le téléphone de la maison était cassé. Il a fallu que j'aille chercher mon portable dans la voiture. Ça m'a fait perdre du temps, je cherchais pas plus loin.
pourquoi pas. D'autant qu'il y a un élément qui joue en sa faveur. D'après le légiste, l'arme du crime est un objet contondant. Genre matraque, poutrelle, batte de baseball, marteau, un truc qui blesse, qui peut tuer, mais qui ne tranche pas. Un objet contondant, pas tranchant. Or cette arme, les gendarmes ont fouillé toute la maison, ils ne l'ont pas retrouvée. Or si on imagine que dans le fameux laps de temps de 20 minutes, Sylvain tue sa femme, il n'a pas en plus le temps de se débarrasser de l'arme et d'aller la planquer. Bien en plus, puisqu'on ne la retrouve pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un en 20 minutes? Il est 10h moins 10. Sylvain Dromard rentre chez lui. Il est tard, il est fatigué, il a travaillé toute la journée. Il descend de sa voiture. Il pénètre dans la maison, il va vers sa femme, et là, bam, 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 il lui fracasse le crâne 10 fois. Ça ne se fait pas en 20 minutes, ça. Ça paraît dingue. Ou alors, ça n'est pas à ce moment-là qu'il la tue. Ou alors, il n'était pas seul. Il avait un complice, ou une complice. Et là encore, pas de chichi entre nous. Un complice, à qui pense-t-on en premier? Sa maîtresse, Muriel Bonin. Elle a un intérêt dans l'affaire. Passer de l'amour à temps partiel à l'exclusivité. Avoir son Sylvain pour elle toute seule. Les gendarmes se font remonter sa fadette, la facture détaillée de son portable. Tiens, tiens, tiens. Muriel coupe son portable à 19h pour ne le rallumer que le lendemain matin. Or, quand on regarde ses factures depuis plusieurs mois, ça ne lui arrive jamais. Jamais elle ne coupe son portable une nuit entière. Et là, par hasard, elle l'éteint la nuit du meurtre. Louche. Très louche. À part ça, les gendarmes apprennent que les deux femmes, Laurence Dromard et Muriel Bonin, se détestaient. Mieux que ça. 3 mois avant le meurtre, elles se sont empaillées, figurez-vous. Laurence est allée chez sa rivale pour lui demander d'arrêter de fréquenter son mari. C'est ce que racontent leurs amis. Et Laurence aurait traité Muriel de pute. Et en retour, Muriel lui aurait collé une baffe. Et ça s'est terminé, façon Astérix. Pim, pam, poum. Et elles se sont battues comme des chiffonnières. Muriel a pris un nion au point que son médecin lui a collé plusieurs jours d'arrêt maladie. Est-ce que Muriel n'a pas tout simplement voulu se venger? Le mardi 16 novembre 2010, 4 mois presque jour pour jour après le meurtre, Sylvain Dromard et sa maîtresse Muriel Bonin sont placés tous les deux en garde à vue, chacun dans leur coin. Madame Bonin, est-ce que vous pouvez nous détailler votre emploi du temps l'après-midi et la soirée du 15 juillet?
J'étais chez moi. J'ai pas bougé.
Ok, miss. Mais c'est long, une garde à vue. À l'approche de la 48e heure de garde à vue, Muriel Bonin, la maîtresse, craque.
Je sais qui est l'auteur du crime. C'est Sylvain.
Et elle donne tous les détails.
Sylvain, il avait une batte de baseball. Il l'a attaqué par derrière. Elle est tombée. Il m'a dit qu'elle l'avait regardé, qu'il n'a pas supporté son regard, et il l'a frappé. Il est frappé encore, par terre, au sol.
Elle dit qu'il a ensuite maquillé son crime en cambriolage, renversé les meubles, les dossiers, cassé le téléphone, et qu'après il s'est changé. Et qu'il a emporté ses vêtements souillés de sang et la batte de baseball, et qu'il est allé s'en débarrasser.
Où
s'en est-il débarrassé?
À son atelier. C'est pas loin, c'est à 1 kilomètre de chez lui. Il a tout mis sous la laine de verre du faux plafond.
Et elle raconte la suite en détail. À 10h moins 10, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Et là, il la voit bouger. Sa femme n'est pas morte.
Il m'a dit qu'il l'a vue ramper sur le sol.
Et on a maintenant le récit de ce qui s'est passé pendant les fameuses 20 minutes qui séparent son arrivée chez lui de son appel aux pompiers. Il l'a étouffée avec un torchon. Il a fini le travail. Et après, il a appelé les secours. n'est-ce pas? Elle donne beaucoup de détails, la maîtresse, beaucoup. Elle décrit parfaitement la scène. Est-ce que ça veut dire qu'elle était là? Madame Bonin, vous nous racontez tout ça 5 mois après le meurtre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé plus tôt? Pourquoi ce silence, madame?
Mais j'ai appris tout ça très récemment. Il m'a raconté tout ça il n'y a pas très longtemps. Et il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, il mourrait dans l'affaire. Il m'accuserait d'être sa complice. C'est pour ça que j'ai rien dit.
Quelques minutes plus tard, les gendarmes vont coller les révélations de sa maîtresse sous le nez de Sylvain Dromard.
Raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, j'ai pas tué ma femme. Elle délire.
Parole contre parole. Il y a un moyen de vérifier si Muriel Bonin ment. Il n'y a qu'à aller à l'atelier de menuiserie et sonder le faux plafond. Et si on trouve ses vêtements tachés de sang et la batte de baseball, Sylvain Dromard est cuit. Les gendarmes y vont.
Regarde là. Là. Là, il y a un trou dans le faux plafond.
Un trou, oui. Mais dedans, il n'y a rien. Ni vêtements, ni batte de baseball. Donc, elle a menti. Elle a raconté n'importe quoi. Pas sûr. Car elle a quelque chose à ajouter.
Il ne l'a pas laissé dans le faux plafond. Il est allé la brûler dans les vignes. Dans ses vignes. Et ses vêtements aussi.
Ah ah! Ça, c'est intéressant parce que il y a dans la procédure le témoignage d'un riverain qui dit qu'il a vu Sylvain Dromard près de ses vignes. Eh bien, on y va. Allons fouiller la vigne. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vigne en question? Les restes d'un feu. Et dans les cendres, les restes de semelles de chaussures de sport. Elle n'a donc pas menti, la bougresse. Sylvain Dromard a donc tué sa femme. Même si honnêtement, les gendarmes trouvent que Muriel Bonin donne beaucoup de détails. Beaucoup trop. Elle donne l'impression d'avoir assisté au crime. En attendant, retour face à Sylvain Dromard.
Monsieur Dromard, suite aux déclarations de Madame Bonin, nous nous sommes rendus dans l'une de vos vignes. Et nous avons trouvé des cendres. Et dans ces cendres, des vêtements brûlés et les restes d'une paire de baskets. Est-ce qu'il s'agit de vos vêtements, monsieur Dromard?
Pas du tout. Il est allé dans ses vignes, oui, mais pour les entretenir. Il dit que 2 pieds de vigne étaient malades, qu'il les a coupés et qu'il les a mis à brûler dans un feu qui était là, dans un coin, et qui finissait de se consumer.
Eh ben oui, enfin.
Il est courant de trouver des feux allumés au milieu des vignes. Les gendarmes ne croient pas un mot de son histoire. Et à la fin de sa garde à vue, Sylvain Dromard est déféré devant la juge d'instruction et il est mis en examen pour l'assassinat de son épouse et placé en détention provisoire. Mais ça ne règle pas le cas de la maîtresse, Muriel Bonin. Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle est complice? Les gendarmes étudient en détail le relevé de son portable et ils tombent sur un SMS, un drôle de SMS. Tu me diras ce que tu veux faire avec elle. Tu m'as dit avant le 17, on se soutient mutuellement, tu auras besoin de moi et moi de toi. Qu'est-ce que vous comprenez à ce SMS, vous? Eh bien d'abord qu'il y a une date butoir pour éliminer Laurence, le 17 juillet. Et ça colle avec la date du meurtre, le 15 juillet. Et surtout, ce message signifie que la maîtresse était au parfum, avant. Au minimum, elle savait que son amant allait tuer sa femme. Je dis au minimum parce qu'au maximum, elle y a participé. Et même est-ce que ça n'est pas elle, l'assassin? En fouillant le sac à main de Muriel Bonin, les gendarmes tombent sur un chéquier. Un chéquier qui a été utilisé chez Decathlon. Le montant du chèque colle avec le prix d'une batte de baseball. Où est-elle, cette batte de baseball, Madame Bonin?
Elle est chez moi. Mais vous la trouverez chez moi.
Et là, elle marque un point parce que, effectivement, on trouve chez elle une batte de baseball nickel. Pas une tache de sang, rien qui puisse laisser penser que c'est l'arme du crime. Sauf qu'on s'aperçoit que quelques jours après le crime, Muriel Bonin est allée chez sa sœur à Besançon et qu'elle est allée chez Decathlon à Besançon pour acheter en liquide une deuxième batte de baseball, la même que la première. Muriel Bonin est mise en examen pour complicité d'assassinat et elle aussi, elle file derrière les barreaux. Et voilà le scénario qui se dessine. Sylvain Dromard est raide dingue de sa maîtresse et elle, après 3 ans dans l'ombre, elle en veut davantage, elle ne veut plus partager son amant avec sa femme. Elle le somme de se débarrasser de son épouse. Elle est l'instigatrice de l'assassinat et lui en est le bras armé. Le temps passe. Après 1 an d'emprisonnement, les deux mis en examen sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Et c'est donc libre que le 27 juin 2016, 6 ans après l'assassinat de Laurence Dromard, ils comparaissent devant la cour d'assises de Reims. Et donc on ne les met pas dans le box des accusés, mais sur un banc, côte à côte. La scène résume parfaitement la situation. Ils sont chacun à un bout du banc. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent même pas. Et tous les deux sont sur la même ligne. Sylvain Dromard dit « c'est pas moi, c'est elle ». Et Muriel Bonin dit « c'est pas moi, c'est lui ». Au juré maintenant de trancher selon leur intime conviction. Et entre autres choses pour trancher, les jurés vont s'appuyer sur l'impression que l'un et l'autre leur font pendant le procès. Sylvain Dromard, on a l'impression que ça ne le concerne pas. Il est là, impassible. Quand le président décide de montrer les photos de la scène de crime, le sang partout sur les murs, sur les meubles, aucune émotion. Pas un battement de cils, rien. C'est sa femme, tout de même. C'est le sang de sa femme. Alors que elle, Muriel Bonin, elle, c'est tout l'inverse. Elle répond à toutes les questions. Elle pleurniche quand il faut pleurnicher. Une partition parfaite. Trop, peut-être. Et ça finit par se retourner contre elle. Un expert vient à la barre. Sur la scène de crime, on a trouvé une trace de pas ensanglantée. Une trace de Converse taille 39. Il ne s'agit ni de la pointure de Sylvain Dromard, ni de celle de Laurence Dromard, la victime, ni de celle des pompiers qui sont intervenus. En revanche, Muriel Bonin chausse du 39. On ne peut pas jurer que c'est son empreinte, hein? Mais ça met le doute. Le verdict tombe. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa femme. Et Muriel Bonin à 18 ans pour complicité d'assassinat. Et tous les deux sont arrêtés sur le champ et expédiés en prison pour purger leur peine. Tous les deux font appel. Et le procès se rejoue donc devant la cour d'assises de Troyes en septembre 2017. Et là, changement de décor, hein. Ils ne sont plus libres, ils sont prisonniers et ils sont donc tous les deux dans le box. Un procès d'appel marqué par une déclaration spontanée de Sylvain Dromard.
Je vais vous dire ce qui s'est passé, réellement, le 15 juillet. En rentrant chez moi, j'ai vu 2 personnes. C'était Muriel Bonin et son frère. Elle m'a dit, je viens de massacrer ta femme. Elle m'a dit, si tu parles, je tue tes filles. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit avant, monsieur ? J'avais peur pour mes filles. Elle m'a dit qu'il y avait un contrat sur elle. Et puis elle a aussi mis un contrat sur ma tête. Depuis qu'on s'est séparés en avril. Pourquoi est-ce que vous faites ces révélations aujourd'hui, monsieur? Je suis obligé. Je peux plus garder ça pour moi. J'ai entendu trop de mensonges depuis le début du procès.
On a beaucoup de mal à le croire. Parce que l'instruction a démontré que Sylvain Dromard et Muriel Bonin se sont revus après le crime et qu'ils ont même couché ensemble. Est-ce qu'on couche avec la femme qui vient de tuer son épouse, qui menace ses enfants et qui vous menace, vous? Non. Enfin, normalement, non. Par cette ultime version, Sylvain Dromard pensait sans doute se disculper. Eh bien, c'est tout l'inverse. Et ça explique le verdict. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et Muriel Bonin, sa maîtresse, est acquittée. Six mois plus tard, Sylvain Dromard, en prison à Châlons-en-Champagne, avale une boîte entière d'anxiolytiques dans sa cellule. Il est retrouvé mort par les surveillants. Il s'est suicidé.
14h-15h, on te la raconte sur Europe 1.
Et je suis donc avec Monique Therrien, longtemps journaliste à Radio France, aujourd'hui à la tête d'un blog qui s'appelle moniquetherrien.com. Monique Therrien, vous avez suivi cette affaire depuis le début et au long des deux procès. Est-ce que le suicide de Sylvain Dromard, au fond, n'est pas un aveu qui n'est jamais venu pendant les procès ?
Un aveu de sa culpabilité, sans doute, oui. Et puis je pense qu'il a compris. En fait, il s'est suicidé quand son recours en cassation a été refusé. Et il a compris à ce moment-là que voilà, tout était perdu, qu'il ne pourrait pas restaurer la confiance de ses filles, parce que ses filles comptaient beaucoup dans sa vie. Il n'y avait pas grand-chose qui comptait. Il n'y avait pas beaucoup d'humanité chez lui.
Elles l'ont soutenu, ses filles, au procès ?
Jusqu'à un certain point. Il y a quand même eu un moment où c'était plus possible de le suivre, notamment quand il a inventé cette histoire rocambolesque d'un contrat qui pesait sur leur tête, sur sa tête à lui. En fait, il s'est tiré une balle dans le pied à ce moment-là.
Parlez-nous de cet homme, Monique Therrien, parce que vous l'avez vu au cours de ces deux procès. À quoi ressemble donc cet homme qui, on peut résumer les choses comme ça, au lieu de quitter sa femme, la tue?
Oui, c'est tout à fait ça. Au lieu d'avoir le courage de la quitter, il la tue. C'est très surprenant, il aurait pu effectivement partir tranquillement avec Muriel Bonin. Bon, c'était quand même un homme assez violent, c'était un homme qui était très féru de séries policières, qui avait beaucoup bu ce soir-là. Je pense qu'il n'a pas eu le courage de la quitter, il a trouvé celui de la tuer en effet, c'est assez étrange.
Alors évidemment, Monique Therrien, nous débriefons cette histoire avec vous. Vous êtes journaliste depuis longtemps dans cette région-là, la Champagne. Vous avez longtemps travaillé à Radio France. Vous tenez aujourd'hui un blog qui parle entre autres de procès et de justice, moniquetherrien.com. On est désarçonné par le jugement contradictoire des deux procès d'assises, même s'il y a une seule vérité judiciaire, c'est qu'elle est innocente. D'abord, à quoi est-ce qu'elle ressemble, Monique Therrien ? Est-ce que c'est une vamp ? Est-ce qu'elle a une capacité de manipulation ? Ou est-ce que c'est une brave fille ?
Alors, quand on la voit aux assises, c'est une femme intelligente, qui est structurée. C'est une jolie femme au premier procès, oui. Pas au deuxième, parce qu'elle sort de prison. Enfin, elle est détenue à ce moment-là et qu'elle est très marquée par la détention, comme l'était d'ailleurs Sylvain Dromard, qui avait beaucoup perdu de son arrogance au moment du procès en appel. Donc, on n'a pas quand même le sentiment d'avoir une manipulatrice en face de soi.
Qu'est-ce qui fait la différence alors au deuxième procès ?
Ce qui fait la différence au deuxième procès, pour moi, c'est la façon dont elle a été défendue. D'abord, le procès a duré plus longtemps. C'est peut-être aussi l'attention des jurés qui ont compris ce que l'avocat de la défense voulait leur expliquer. C'est-à-dire que Muriel Bonin a été une femme extrêmement amoureuse de Sylvain Dromard et que quand il a fini par tuer sa femme pour la garder, elle, parce que les ultimatums qu'elle lui envoyait par téléphone, rien ne prouve que c'était des incitations à tuer.
Non, effectivement.
C'était peut-être simplement, et sans doute simplement, c'est ce que les jurés ont compris en tout cas, sans doute simplement une incitation à la quitter, à quitter sa femme.
Parce que le SMS dit « tu me diras ce que tu veux faire avec elle, tu m'as dit avant le 17 ». Et ça ne veut pas dire effectivement « tu m'as promis de la tuer avant le 17 ».
Et ça n'est qu'un des SMS, parce qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines. Ils étaient en relation permanente. Donc, elle lui a dit que là, cette fois, c'était la date butoir, que si, parce qu'il était question, enfin, le projet de la famille Dromard, c'était de partir en vacances tous les quatre, le couple et les deux filles, dans un camping-car le lendemain du drame. Donc, c'est en tout cas ce que Sylvain Dromard a fait croire à sa femme. Il lui a fait croire ça. Est-ce qu'il avait l'intention vraiment de partir? On peut en douter, parce que, par exemple, l'assurance du camping-car, il l'a résilié la veille. Il savait déjà la veille qu'il ne partirait pas en camping-car.
Ah, précautionneux, il résiliait l'assurance.
Et très, très, très organisé. Donc, je pense que... D'ailleurs, il a été condamné pour assassinat, donc il a prémédité ça. Et l'avocat général lui a lourdement reproché de faire croire à sa femme qu'il allait la retrouver, qu'il était de nouveau un père et un époux modèle. Et en fait, c'était pour mieux la tuer.
Alors, je voudrais qu'on reprenne ensemble quand même quelques-uns des points qui font que longtemps on pense qu'elle est la complice de Sylvain Dromard. D'abord, la masse de détails qu'elle donne sur le meurtre, c'est assez stupéfiant. C'est un meurtre auquel, a priori, donc, elle n'a pas assisté, dont elle n'était pas informée, et elle le raconte comme si elle l'avait vécu.
Parce que Sylvain Dromard lui raconte tout de suite. Parce que, en plus, en lui racontant tout, il est un peu machiavélique, hein, Sylvain Dromard. En tout cas, on peut imaginer que ça s'est passé comme ça, parce qu'effectivement, on n'en sait rien. Mais il lui raconte tout, parce que c'est une façon, si vous me passez l'expression, de la mouiller, de se la mettre dans la poche. Il n'est plus tout seul dans ce crime.
De l'embarquer une fois avec lui, quoi.
Voilà, elle est compromise avec lui une fois qu'elle sait tout. Et donc... Ça, vraiment, c'est assez typique du comportement de Sylvain Dromard, qui était quand même un amant assez terrible, si vous voulez, et un homme assez terrible. C'était notoirement un coq de village, un homme à femme, sa femme le savait. Muriel Bonnat a compté un petit peu plus dans sa vie que les autres femmes. La liaison avec Muriel Bonnat a été plus importante que celle qu'il avait avec les autres femmes. Mais il a trompé et sa femme et sa maîtresse en même temps pendant les 3-4 années qu'ont duré leur liaison. Enfin, c'était quelqu'un qui était capable de harceler, qui avait un petit côté pervers dans sa relation avec les femmes. Et Muriel Bonnat était, de ce point de vue-là, une femme sous emprise, très certainement. Alors que par ailleurs, c'est une femme de tête, c'est une professionnelle accomplie, très appréciée de ses employeurs. Elle a très vite retrouvé du travail quand elle était en sous bracelet électronique. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a très vite refait sa vie aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, quand en attendant son procès en appel. Donc, c'est une femme qui, d'un côté, est capable de très bien gérer les situations et qui, de l'autre, était vraiment sous l'emprise de cet homme qu'elle aimait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je pense que c'est ça que les jurés ont compris.
Alors moi, il y a quand même un détail qui me gêne et qui a dû être dans la tête de tout le monde jusqu'au bout. C'est que donc, elle achète 2 battes de baseball.
Ouais.
La seconde, sans doute, pour remplacer la première. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse qu'on fait. Ça pèse pas au moment où on la quitte?
Alors, les battes de baseball, on peut comprendre aussi comment ça s'est passé. Vous avez raconté cette agression assez violente qu'il y a eu avec
crépage
l'épouse,
de Chignon,
hein.
Oui.
Voilà, crépage de Chignon. Sylvain Dromard, dans son côté machiavélique, il n'était pas mécontent que ces femmes se battent comme ça. Ça l'a pas bouleversé, ça lui a pas fait de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il était au centre comme ça d'un conflit qui est allé très loin, ça le valorisait plutôt. Donc, ce qu'il a dit à Muriel Bonnat, une fois qu'elle s'était fait bien amocher, il lui dit là maintenant, il faut quand même que tu te protèges un petit peu et que tu t'achètes une arme. Donc, ils vont sur Internet, ils commencent à acheter une arme. Sauf que pour acheter une arme, il faut donner son identité.
Enfin, vous voulez dire un pistolet ou une carabine?
Voilà. Et Sylvain Dromard était quand même très peu scrupuleux, hein, il faut le dire. Il propose à ce moment-là à Muriel Bonnat d'acheter l'arme sous l'identité d'un des salariés qu'il venait de renvoyer, avec lequel il avait eu des histoires. Donc on ne prenait pas beaucoup de risques en utilisant cette identité-là pour acheter l'arme. Et Muriel Bonnat a dit non, moi c'est un truc que je ne fais pas, je ne vais pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour acheter une arme. Et donc, on se rabat à ce moment-là, mais tous les deux, devant l'ordinateur, quand ça marche pas pour le pistolet, On se rabat sur la batte de baseball et elle va acheter cette batte de baseball, mais sans se cacher, pour se protéger donc d'une prochaine agression possible
de Laurence Romard.
Elle va acheter cette batte de baseball et c'est là où aussi ça a énormément pesé dans l'acquittement, c'est qu'elle y va à visage découvert, qu'elle signe avec un carnet de chèque et qu'elle paye sa batte de baseball avec son carnet de chèque. Donc elle se cache pas pour aller acheter cette première batte de baseball.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il se rabatte sur une batte de baseball parce qu'il a déjà lui envisagé de tuer sa femme avec une batte de baseball et qui se dit tiens,
on ne peut pas l'exclure. Personnellement, je ne l'exclus pas. Ça lui ressemble. Ça colle avec son personnage. Vraiment.
J'ai rarement des journalistes en ligne pour raconter mon histoire. Ce sont souvent des avocats qui débriefent les histoires. J'en profite. Votre intime conviction à vous, Monique Desrien, c'était quoi ?
C'est qu'elle est innocente. C'est qu'elle était une femme sous influence. C'est qu'elle avait besoin d'être aimée. Et que quand Sylvain Dromard a tué sa femme, il l'a fait pour l'amour de Muriel Bonin. Et ça, pour elle, c'était un cadeau énorme et que sa loyauté lui empêchait à ce moment-là de ne pas le soutenir. Et donc, effectivement, après, quand elle a su ce qu'il avait fait, elle a continué à le soutenir, à le couvrir, jusqu'à ce qu'elle craque en garde à vue. Mais c'était encore une histoire d'amour. Tout ce qu'elle a fait à ce moment-là, ça ne pouvait pas être de la complicité. C'était de non-dénonciation de crime, mais elle ne pouvait pas être complice après le crime. Vous voyez, parce que ce qu'on lui reprochait, c'était tout ce qu'elle avait fait après, qui était assez incompréhensible. Enfin, personne n'a compris pourquoi elle est restée avec Dromard, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Il se voyait en cachette, etc.
Et ça, elle continue de coucher avec lui alors qu'elle sait qu'il a tué sa femme.
Voilà, il se retrouve dans la voiture, dans les parkings, dans les hôtels, etc. Et ça, c'est incompréhensible. Sauf que, encore une fois, c'est une femme qui avait besoin d'amour, qui n'a pas une vie très heureuse, qui voulait des enfants qui n'en a pas eu, qui a eu un premier mariage raté. Et le psychiatre l'a dit, ça, à l'audience. Hein. Le psychiatre a expliqué qu'elle l'a soutenue, encore une fois, sous une forme de loyauté, et que c'était pour elle presque... Enfin, cette mort, c'est horrible à dire comme ça, mais cet assassinat était presque un cadeau qu'on lui faisait, vous voyez.
Alors, elle a passé au total plus de 2 ans en prison, un an avant le premier procès, et 14 mois entre les deux procès. 2 ans de prison alors qu'on est innocent, ça mérite d'être indemnisé. Est-ce qu'elle a été indemnisée ?
Elle a été indemnisée à hauteur de 117 000 euros de mémoire.
D'accord. Elle avait réclamé 300 000, je crois.
Oui, son avocat, mais vous savez, ça c'est le jeu...
le jeu habituel.
De la plaidoirie, on demande beaucoup.
Mais l'État français s'est excusé auprès d'elle et l'a indemnisé à hauteur de 117 000 euros.
Absolument, parce que quand même, ça a été un long chemin pour elle. Et si vous me permettez encore une toute petite chose à propos de Muriel Bonin, c'est que elle est devenue amie avec l'aumônière de la prison dans laquelle elle a été détenue. Et cette aumônière, encore une fois, c'est une amitié très forte qu'elles ont toutes les deux, parce que cette femme a été convaincue que Muriel Bonin ne pouvait pas être coupable, et parce que Muriel Bonin, la première fois qu'elles se sont parlé dans des cercles paroles qui étaient organisés en maison de détention, Muriel Bonin a dit son immense soulagement d'avoir fini par parler aux enquêteurs. C'est-à-dire qu'elle a gardé ce secret pendant plusieurs mois avant de se libérer d'un poids énorme. Et c'est une fille, si vous voulez, c'est ça qui est très très compliqué à comprendre et je crois qu'il faut, avoir une approche psychologique de ce que peut être une femme amoureuse et sous influence. Elle a gardé ce secret parce qu'elle était très amoureuse et elle a fini par craquer et elle a été soulagée de craquer quand elle a fait ses aveux.
Merci beaucoup, Monique Desrien, d'avoir accepté de revenir sur cette histoire. Je rappelle que votre blog s'appelle moniquederrien.com. On y trouve des comptes rendus de procès, des papiers sur l'actualité judiciaire de la Champagne, aussi des choses plus gastronomiques sur la Champagne et notamment sur le champagne.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Christophe Ondelatte sera de retour aujourd'hui pour nous raconter l'histoire d'un homme qui tue sa femme et ses 2 filles de 3 et 4 ans pour partir avec sa maîtresse. Voilà une histoire qui se déroule dans le Colorado aux États-Unis en 2018, mais qui pourrait se dérouler n'importe où. Voilà, c'est un drame universel. Ondelatte raconte Daddy No, l'affaire Chris Watts, c'est ce mardi de 14h à 15h sur Europe 1. Et dans un instant, au cœur de l'histoire, Stéphane Bern nous raconte le destin du maréchal Pétain. Pour le moment, on va écouter de la musique. Le nouveau Obispo qui rend hommage à Johnny Hallyday.
Appelle-moi Johnny, comme si j'étais un grand frère. À l'école buissonnière, où l'on a tout appris. Appelle-moi Johnny. Hey, tu sais, j'en serais fier. Que tu me confies tes galères et te parles les miennes aussi. Appelle-moi Johnny. J'étais tout seul, j'étais comme toi, à me croire toujours incompris. Alors que j'attendais cette voix pour savoir enfin, enfin qui je suis. Appelle-moi Johnny. Hey! Appelle-moi Johnny, comme ça, comme un copain. Il ne te demande rien parce que le silence suffit. Appelle-moi Johnny. Quand t'as le cœur qui va pas bien, qu'on peut se tendre la main sans même attendre un merci. Appelle-moi Johnny. Hey! D'autres sont seuls autour de moi, sans aucun rêve ni envie. Si j'ai la chance d'être là, c'est de t'avoir. Un jour suivi, appelle-moi Johnny. Hey, appelle-moi Johnny.
Pour donner aux parents plus de contrôle sur les applications que leurs ados téléchargent, Instagram demande une réglementation européenne. Cette réglementation exigerait la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store, là où les applications sont téléchargées. Les ados devraient être mieux protégés contre les téléchargements d'applications qui ne sont pas adaptés à leur âge. L'accord parental sur l'App Store peut aider à les protéger. Pour en savoir plus, rendez-vous sur instagram.com/accordparental.
Appelle-moi Johnny. Comme quelqu'un de ta famille, celui qui ne juge personne quand tout le monde l'abandonne. Appelle-moi Johnny. Hey, sache que c'est pour la vie. Qu'entre nous tous se pardonne, qu'importe comment on se prénomme. Moi, c'est juste Johnny.
Appelle-moi Johnny, le second single du prochain album de Pascal Obispo qui sortira le 24 octobre prochain. Ce sera déjà le 14e, intitulé Héritage au pluriel. Cette chanson hommage à Johnny Hallyday qui aurait eu 82 ans ce dimanche 15 juin. Obispo qui a notamment travaillé avec lui en 1997 pour l'album Ce que je sais, qui comprenait notamment Allumer le feu, coécrit avec Pierre Jaconelli sur des paroles de Zazie. Et c'était le premier album qu'il produisait. Plein feu à présent sur le personnage dont va nous parler tout de suite Stéphane Bern sur Europe 1. L'heure est venue de voyager au cœur de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque jour à 15h sur Europe 1, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, je vous raconte le destin de Philippe Pétain, le maréchal de France d'une première guerre mondiale dont il est sorti auréolé, devenu le 16 juin 1940, il y a 85 ans, jour pour jour, le chef de l'État français, qui en s'octroyant les pleins pouvoirs et en collaborant avec l'ennemi, a déployé durant la Seconde Guerre mondiale le régime de Vichy une politique nationaliste, autoritaire, rétrograde, xénophobe et antisémite qui a terni à jamais l'histoire de notre pays. Comment le mythe du vainqueur de Verdun s'est-il construit ? Pourquoi les pleins pouvoirs ont-ils été confiés à Pétain en 1940 ? Et le pétainisme est-il mort aujourd'hui ? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité, l'historien Jean-Yves Le Naour, découvrons d'abord le destin du maréchal Pétain, chef de l'État français.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes à l'été 1944 et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il marque un tournant. Le 6 juin, le débarquement en Normandie permet aux Alliés d'ouvrir une tête de pont sur le continent. Le Troisième Reich, qui recule déjà face aux Russes à l'Est, doit composer avec un deuxième front à l'Ouest. Le 15 août, le débarquement en Provence en ouvre un troisième au Sud. À Vichy, c'est la panique. Depuis que les Allemands ont franchi la ligne de démarcation qui séparait jusqu'en 1942 la zone occupée de la zone libre, l'État français ne dirige plus grand-chose. Mais son chef, Philippe Pétain, qui en a pris la tête le 16 juin 1940, il y a 85 ans, donc jour pour jour, n'en démord pas. Son monde a beau s'effriter, il ne varie pas. À 88 ans, le maréchal a la ferme intention de rester à son poste jusqu'au bout. Mais les nazis ne l'entendent pas de cette oreille. Le 20 août 1944, des troupes allemandes entraînent le maréchal pour l'installer dans une petite ville au sud de Stuttgart, Sigmaringen. Là-bas, le château des Hohenzollern devient le dernier réduit d'une France à l'agonie, celle qui a choisi la collaboration avec le Troisième Reich. Un autre exilé célèbre, Louis-Ferdinand Céline, racontera plus tard cette ambiance crépusculaire dans l'un de ses romans « D'un château l'autre ». Officiellement, la forteresse est un territoire français, mais la température est glaciale et le ravitaillement difficile. Le Reich s'effondre, la région tremble sous les bombes alliées et les derniers collabos se traînent comme des âmes en peine. À Sigmaringen, Philippe Pétain se considère comme prisonnier. Protégé par un dernier cercle de fidèles, le vieil homme se réfugie dans un silence opiniâtre et laisse à d'autres le soin de jouer la comédie d'une autorité française qui n'est plus qu'une fiction. La fin de la guerre est proche, le maréchal le sait. Maintenant que la victoire alliée se profile, comment justifier ces 4 années de pouvoir ? Comment justifier le fait d'avoir engagé la France dans cette collaboration qu'il a lui-même annoncée ? Oui, le 30 octobre 1940, quelques jours après sa célèbre rencontre avec Adolf Hitler à Montoire, le maréchal déclarait cela à la radio. Écoutez.
C'est dans l'honneur. Et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression.
Vu de Berlin, cette collaboration n'est rien d'autre qu'une mise sous tutelle. Et le ministre de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, ne s'est pas privé d'ironiser. La politique de Vichy, c'est la collaboration, oui, celle du cheval et du cavalier. Vu de France, c'est bien Philippe Pétain qui incarne la collaboration, comme il incarne le régime de Vichy. Depuis 4 ans, c'est lui qui porte l'idée que le redressement national passe par la collaboration. Alors que la défaite se profile, Philippe Pétain prépare sa défense, une défense qui tourne autour d'une seule idée, celle que le maréchal n'aura eu qu'une seule obsession toute sa vie, défendre la France. Si le nom de Philippe Pétain reste d'abord associé à l'histoire du XXe siècle, il ne faut pas oublier que le maréchal reste à bien des égards un homme du XIXe siècle. En 1900, il a déjà 44 ans. Son existence commence dans une petite ville du Pas-de-Calais, en 1856. Le jeune Philippe voit le jour dans une famille de cultivateurs pratiquants, très catholiques. Son enfance est assez triste, sa mère meurt alors qu'il est très jeune, sa belle-mère ne s'intéresse pas à lui. Le garçon grandit au rythme des souvenirs de guerre de son oncle, un vétéran qui a servi dans la Grande Armée au temps du Premier Empire. Mais le jeune Pétain se retrouve surtout aux Premières Loges pour assister à la fin du Second Empire en 1870. Marqué par la défaite contre la Prusse, Philippe Pétain choisit la voie des armes. Bon élève, cet excellent cavalier intègre Saint-Cyr de justesse en 1876, 403e admis sur 412. Il en sort à un rang honorable, mais modeste, 229e sur 336. Sa carrière militaire ne s'ouvre donc pas sous les meilleurs auspices. Pendant que d'autres se couvrent de gloire dans les campagnes coloniales, Pétain s'ennuie ferme dans les Alpes-Maritimes d'abord, à Besançon ensuite. Diplômé de l'école de guerre, il est affecté à Marseille avant de rejoindre l'état-major du gouverneur de Paris. En 1900, Pétain se retrouve instructeur dans l'artillerie à l'école de tir de Chalon-sur-Marne, puis à l'école supérieure de guerre où le professeur Pétain se distingue une première fois. Tandis que la théorie dominante préconise l'attaque à outrance, lui privilégie la défense et la guerre de position. En 1914, l'officier s'apprête à prendre sa retraite au terme d'une carrière honorable mais sans éclat. Lorsque la guerre éclate, justement. Face à l'ennemi, Pétain se distingue d'abord du côté de Namur. Promu général de brigade en août 1914, il se signale encore après la Marne. Le 22 octobre, c'est comme général de division qu'il prend cette fois la tête du 33e corps d'armée qui enchaîne les actions d'éclat dans l'Artois en 1915. En février 1916, l'Allemagne lance le début d'un assaut qui va rester dans l'histoire, la bataille de Verdun. Dans ce grand massacre d'hommes, c'est à Pétain que le maréchal Joffre, chef d'état-major de l'armée de terre, pour quelques mois encore, confie le soin d'organiser la défense des Français. C'est lui qui parvient à mettre en place l'immense noria d'hommes, de vivres et de munitions qui emprunte la petite route qui va de Bar-le-Duc à Verdun, qu'on surnomme alors la Voie sacrée. La France tient bon et pour l'opinion, Philippe Pétain y gagne une image flatteuse et exagérée, celle du vainqueur de Verdun. En réalité, Pétain n'a commandé que 2 mois sur ce front pour une bataille qui en a duré 10. L'année suivante est marquée par l'échec meurtrier de la stratégie du général Nivelle, le successeur de Joffre, qui privilégie une offensive à outrance au mépris des pertes. Après le chemin des dames, lorsque l'évidence montre que les choix de Nivelle n'ont servi à rien, l'armée française traverse une mauvaise passe. Les poilus sont épuisés et la désobéissance menace. Le 15 mai 1917, Nivelle est débarqué au profit du maréchal Pétain, qui se lance alors dans une politique qu'on pourrait résumer par cette phrase « La mutinerie n'est pas tolérable, mais j'entends votre souffrance ». Les mutins sont jugés, souvent sévèrement, mais les exécutions restent rares, 49 seulement, pour 554 condamnations à mort. Dans le même temps, Pétain se démène pour améliorer le sort des poilus sur le plan matériel. À l'automne 1918, Pétain relance une série d'offensives limitées. Le partisan de la défense estime que le temps de l'attaque est venu, une attaque combinée. Pour lui, c'est en alliant la puissance de feu de l'artillerie, de la jeune aviation et des tanks que le front allemand finira par céder. La grande offensive qu'il prépare en Lorraine pour le 14 novembre 1918 n'aura pourtant jamais lieu. 3 jours plus tôt, l'Allemagne épuisée réclame un armistice. Georges Clemenceau, ministre de la guerre et président du Conseil, accepte contre l'avis de Pétain, qui estime qu'il aurait d'abord fallu franchir le Rhin. À l'heure de la paix, le général Pétain est une légende vivante, ou presque. Le 19 novembre, le président Poincaré lui accorde la plus haute distinction militaire, un titre de maréchal de France. Philippe Pétain reste officiellement dans l'actif jusqu'en 1926, l'année de sa dernière campagne au Maroc, contre les insurgés du RIF. Ensuite, les charges et les honneurs s'enchaînent. L'Académie française d'abord en 1931, puis le ministère de la guerre en 1934 et le Conseil supérieur de la guerre enfin, où Pétain renoue avec son obsession de la défense. Dans une France qui s'est jurée de ne plus jamais connaître les souffrances de la Grande Guerre, l'idée lui permet de peaufiner son image d'officier soucieux de la vie des soldats. Enfin, c'est à Madrid qu'on le retrouve en 1939, quand Édouard Daladier, le chef du gouvernement, le nomme ambassadeur de France auprès du nouveau régime, celui du général Franco. L'Espagne aurait pu n'être qu'une retraite dorée pour le vieil officier. Mais la guerre va venir tout changer. Au printemps 1940, le sort de la France, qui vient de s'effondrer en quelques semaines face aux armées du Troisième Reich, bascule, et l'existence du maréchal également. Après une vie pour la gloire, place à une vie pour la honte. Après des mois de ce qu'on a appelé la drôle de guerre, l'Allemagne passe en effet à l'attaque le 10 mai 1940. Le 17, la situation est déjà compromise quand le président du Conseil, Paul Reynaud, rappelle d'urgence le maréchal Pétain, mais la débâcle a commencé. Le gouvernement se replie sur Bordeaux et les événements s'enchaînent. Le 16 juin 1940, il y a 85 ans jour pour jour, Paul Reynaud démissionne pour céder la place au maréchal sur décision du président Albert Lebrun. Le lendemain, le nouveau président du Conseil annonce son intention de demander un armistice. Le 22, la France accepte les conditions du régime hitlérien à Retonde, là où l'Allemagne avait signé l'armistice de 1918. Le 29, le gouvernement s'installe à Vichy. Pourquoi Vichy ? Parce que Lyon, c'est la ville d'Édouard Herriot, classée à gauche, et que Marseille est trop excentrée. Le repli est censé être temporaire, d'ailleurs, mais c'est pourtant là que la Troisième République s'éteint pour céder la place à un nouveau régime, l'État français. Et aussi, il faut le rappeler, c'est parce qu'à Vichy, il y avait tous les hôtels pour accueillir la foule des membres de l'État français. Le 10 juillet, les parlementaires qui ont pu arriver jusque-là votent les pleins pouvoirs au maréchal avec une mission, promulguer une nouvelle constitution. Celle-ci ne sera jamais écrite. Et c'est donc un État provisoire, l'État français, qui voit le jour les 10 et 11 juillet 1940, avec quatre actes constitutionnels. Le début dit tout. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. Ce « nous » de majesté qui fleure bon l'ancien régime n'est pas qu'une formule. La France est occupée par le Troisième Reich, oui. Elle est aussi coupée en deux par la ligne de démarcation. Mais en théorie, l'autorité de Pétain s'étend sur les deux zones. La zone occupée comme la zone libre. En pratique, l'ingérence allemande est constante, au nord comme au sud. Mais sur le papier, au moins, le maréchal concentre entre ses seules mains des pouvoirs que personne ne s'était vu attribuer depuis 1789. Il n'y a plus d'assemblée, la Chambre et le Sénat sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. Le maréchal est à la fois chef des armées, chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Pétain s'accorde aussi le droit de condamner n'importe quel fonctionnaire. La presse est sous contrôle, les élections repoussées sine die, les partis n'ont plus le droit de se réunir. Dans une formule restée tristement célèbre, le maréchal déclare alors « Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur ». À en juger par l'étendue de son pouvoir, il est permis de se demander si Pétain ne fait pas plutôt le don de la France à sa personne. Quant à ceux qui comptaient sur l'âge du capitaine pour tirer les ficelles en coulisses, ils en sont pour leurs frais. Pétain est un homme âgé, certes, il a 84 ans quand il est nommé. Il entend mal, certes, il est fatigué, mais il reste vert. C'est bien lui qui engage la France sur la voie de la collaboration. C'est bien lui qui dirige et c'est bien lui que la propagande affiche partout. À la fin de l'été 40, ce qui ne devait être qu'une solution transitoire est un régime bien installé. Autour du maréchal, l'équipe est extrêmement resserrée. Pas plus de 5 ou 6 ministres. Un surtout, Pierre Laval, son successeur désigné. C'est à cette équipe réduite que revient le soin de déployer la promesse du nouveau régime, une promesse qui se résume en une formule, la révolution nationale. Ce programme, justement, parlons-en. L'idée maîtresse est simple. Au lendemain de la défaite, la République est accusée de tous les maux. Dans l'esprit du maréchal, la France a perdu parce que la France est amollie. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi, on a voulu épargner l'effort, on rencontre aujourd'hui le malheur. Le Front populaire de 1936 est particulièrement ciblé et toutes les composantes de la gauche avec. Le maréchal se pose en père de la nation, sévère mais juste, il faut assainir et nettoyer. Alors, trois mots sont choisis pour remplacer la vieille devise républicaine, fini liberté, égalité, fraternité. Désormais, c'est travail, famille, patrie. Le cœur du pouvoir à Vichy, c'est l'hôtel du Parc, là où le maréchal s'est installé dans la chambre 35. On peut l'apercevoir souvent, d'ailleurs. Tous les jours, vers midi et demi, Pétain fait une longue promenade dans les jardins pour s'ouvrir l'appétit. Il déjeune ensuite dans l'un des salons du restaurant Chanteclerc avec une quinzaine de convives, dont quelques personnalités de passage. Le soir, on dîne en comité plus restreint. Le maréchal a conservé un excellent coup de fourchette et ne déteste pas le vin rouge. Mais derrière cette bonhomie de façade, derrière cette image de vieux chef débonnaire, c'est bien là que le chef de l'État français déploie une politique nationaliste, autoritaire,